Chapitre 9. May écouta Simon lui raconter comment on l'avait poussé dans la retenue d'eau du moulin.
« Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, » asséna-t-elle. « Notre petit village est charmant. Vous finirez par découvrir que c'est ce Tom Courtney, le meurtrier. Un des jeunes garçons du voisinage a dû vouloir vous faire une niche. »
« Je n'ai pas croisé le moindre jeune à Audley Cruzis, » protesta Simon. « La moyenne d'âge m'y semble plutôt élevée. » May se hérissa d'indignation.
« On ne peut pas dire que vous soyez un foudre de guerre. Bien sûr que nous avons des jeunes garçons et des jeunes filles. Simplement, ils sont scolarisés à Chipping Camden et prennent le bus scolaire. »
Tout à coup, Simon se souvint que le pasteur lui avait demandé s'il savait nager. Ne voulant pas se retrouver embarqué dans une des activités de la paroisse, il avait répondu que non. Pénélope était présente.
« De toute façon, tu prends tes clics et tes claques, petit gars, et tu lèves le camp. J'aime pas les fouineurs. »
Simon marmonna des excuses et s'en alla faire ses valises. Le lendemain, Agatha était d'humeur combative. Premièrement, elle était contrariée que son don pour les accents n'ait pas donné le change. Deuxièmement, elle avait décidé de retourner à Audley Cruzis avec Tony et Patrick pour reprendre les interrogatoires à zéro. Grâce à ses contacts dans la police, Patrick avait appris que, côté bureau, la vie de Johnson Day avait fait l'objet d'une enquête approfondie et que rien de funeste n'avait été mis au jour. La police avait cuisiné Tilly Glossop encore et encore, mais n'en avait rien tiré. Outre la photo du maire, Sunday avait en sa possession plusieurs courriels de membres du personnel de la commission de santé et de sécurité. Chacun des messages contenait quelque chose qu'ils n'auraient pas voulu que leur chef, leur femme ou leur mari apprennent, mais ils avaient tous un alibi en béton. Apparemment, Sunday n'avait pas joué les maîtres chanteurs. Il s'était contenté d'utiliser ce qu'il savait comme moyen de pression pour n'en faire qu'à sa tête. Agatha pensa avec culpabilité au cliché compromettant de Penelope Timson. Elle n'aurait jamais dû le subtiliser. Une fois arrivée au village, elle décida de rendre visite à Penelope elle-même. Elle envoya Patrick voir ce qu'il pouvait tirer de Tilly Glossop et Tony fut expédié chez Carrie Brothers. Tony était contente que Simon soit de retour au bureau. Agatha avait fait un bref compte-rendu des mésaventures du jeune homme. Tony se demandait ce que ses anciennes copines d'école auraient pensé de lui. Avec son nez crochu et sa grande bouche, il ressemblait un peu à Casper, le personnage du théâtre de marionnettes allemand. Mais son sourire chaleureux et la façon dont ses yeux sombres pétillaient sous son épaisse tignasse noire bouclée le rendaient attachant. Et puis, il avait fait preuve de gentillesse à son égard. Tony sonna chez Carrie et fut accueilli par l'habituelle cacophonie d'aboiements enregistrés. Lorsque Carrie ouvrit la porte, son large visage était couvert de larmes.
« Que se passe-t-il ? » s'exclama Tony. « Je peux faire quelque chose pour vous aider ?»«
Oui, entrez !»
Tony la suivit dans le salon encombré qui sentait le chien. Carrie fit volte-face.
« Vous êtes détective privé. Je veux que vous résolviez un meurtre. »«
C'est justement pour ça que je suis ici. »
« Je ne parle pas de cet enquiquineur de Sunday. Lui, il méritait de mourir. Je parle de mon Pookie !»«
Pookie ?
Mon petit chien. Mon précieux bébé. »«
Que s'est-il passé ?»«
C'était hier. J'étais sur la place du village. J'ai posé mon Pookie par terre pour qu'il se dégourdisse les pattes. Je l'ai vu attraper quelque chose et le mâchonner. Le temps que je le rejoigne, il l'avait avalé. Je ne sais pas ce que c'était. J'ai dit « Pookie, méchant garçon !» « Tu n'es pas censé manger autre chose que ce que maman te donne !»
Les yeux de Carrie se remplirent de larmes.
« Il m'a léché le nez et a levé ses petits yeux vers moi. Je l'ai ramené à la maison et installé dans son panier. Je suis allée faire une sieste et quand je me suis réveillée, il était mort. J'ai emmené son petit corps chez le vétérinaire et j'ai demandé une autopsie. »«
Vous avez les résultats ?»«
Pas encore. » Cet idiot de vétérinaire a essayé de me faire croire qu'il est mort parce qu'il mangeait trop et manquait d'exercice.
Quel âge avait Pookie ?
Presque 12 ans.
Ce n'est pas tout jeune pour un chien.
Sottise ! Il avait encore de belles années devant lui.
Je vous en prie, asseyez-vous et laissez-moi vous préparer une tasse de thé, proposa Tony. Vous avez subi un choc.
Sans attendre la réponse, Tony se mit en quête de la cuisine et prépara une tasse de thé fort et sucré qu'elle apporta à Carrie.
Vous êtes une gentille fille. Personne d'autre ne se soucie de mon Pookie, et ils disent qu'il souillait la place du village,
dit celle-ci d'un ton bourru après avoir bu une gorgée de thé.
Mettons que votre chien ait été empoisonné. Qui aurait pu faire une chose pareille?
N'importe lequel des habitants d'Audley Cruzis.
Avant ces horreurs, c'était un village charmant.
Oh, bien sûr, nous en avions tous par-dessus la tête, de voir Sunday fourrer son nez partout.
Mais, dans un sens, ça nous rapprochait. Nous avions certes des différends de temps à autre, cependant nous étions très unis.
Même Myriam était parvenue à s'intégrer. Nous la laissions jouer les châtelaines parce qu'elle faisait beaucoup pour le village.
Pendant un temps, tout était revenu à la normale parce que nous étions persuadés que Tom Courtney était le coupable. Mais on dirait bien que ce n'est pas le cas et qu'il y a un meurtrier parmi nous.
À votre avis, qui a pu assassiner Sunday? Peut-être que c'est la même personne qui a tué votre chien.
Carrie fixa Tony sans ciller pendant un long moment. Elle avait les yeux rouges d'avoir pleuré.
« Eh bien, je vais vous le dire, » annonça-t-elle enfin. « C'est le pasteur, Gilles Timson. »«
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?»«
Il ne me laissait pas emmener Pookie à l'église. »
Toutes les créatures sont des créatures du Seigneur, grandes ou petites. Ce n'est pas ce que vous répétez à l'envi?
Voilà ce que je lui ai dit.
Il m'a rionné et a rétorqué que Dieu avait aussi créé les pitons et les cafards.
Pourtant, est-ce que j'aimerais voir une de ces bestioles dans l'église?
Alors Pookie lui a mordu la main.
Vous auriez dû voir le regard mauvais qu'il m'a lancé.
Et puis,
elle baissa la voix. J'ai vu sa femme dans un café à Merceuster. Elle était avec John Sunday et elle pleurait comme si elle venait de rompre avec elle.
La photo, sans doute, pensa Tony.
Voici ma carte. Appelez-moi à la seconde où vous avez les résultats de l'autopsie.
Agatha trouva Pénélope dans le cimetière. Elle arrachait les mauvaises herbes qui poussaient à la base des vieilles pierres tombales, coiffées d'un chapeau de paille rose à larges bords, orné de tulle à pois blancs et roses.
Magnifique ce chapeau, lança Agatha.
Oh ça!
Pénélope se redressa et le repoussa sur son front.
« Je ne le porte que pour jardiner. Je le déteste. Je l'avais acheté pour le mariage de quelqu'un que je n'aimais pas du tout. Alors je n'ai jamais eu envie de le remettre. C'est idiot, je sais. Vous vouliez quelque chose ?»
Pendant qu'elle cherchait Pénélope près du presbytère, Agatha avait reçu un appel de Tony qui lui avait répété ce que Carrie lui avait appris.
« J'ai entendu dire qu'un jeune homme qui logeait chez Made in Woody a été poussé dans la retenue d'eau du moulin hier soir. »
« Simon, il est si gentil. Pourquoi voudrait-on faire une chose pareille? Quelqu'un lui aura joué un tour. »
Elle baissa la voix. « Il y a des gens dans ce village qui boivent un peu trop. »
« Ou quelqu'un pensait qu'il ne savait pas nager ?»
reprit Agatha. « Mais ce n'est pas pour ça que je suis venue vous voir.
Il semblerait que l'on vous ait aperçu dans un café de Merceuster, en compagnie de Sunday.
Il s'agissait de la photo?
Que voulait-il?
De l'argent?
Dites-moi la vérité cette fois. Il avait cette photo en sa possession, c'est ça ?»
Oui, mais ce n'est pas de l'argent qu'il voulait. Il y a quelque temps, Gilles a acheté un bout de terrain à l'extérieur du village. Il disait que lorsqu'il serait à la retraite, nous pourrions y faire construire une maison. Moi, je ne veux pas continuer à vivre ici. Je suis une citadine, j'ai été élevée en ville.
Quelle ville ?
Morton in Marsh.
On est loin de la métropole en effervescence, pensa Agatha.
Alors que voulait Sunday ? Le bout de terrain constructible ?
Oui. Il voulait que je persuade Gilles de le lui vendre, sans quoi il lui envoyait la photo.
Quand était-ce ?
Une semaine avant le meurtre.
Mais comment peut-on vouloir s'installer à Audley Cruzis ?
Laissa échapper Agatha.
Je pense, répondit Pénélope, passant une main pleine de terre sur son visage, qu'il voulait développer un petit microcosme de pouvoir. Il aimait tyranniser les gens.
Qu'avez-vous fait ?
Je l'ai invité à venir prendre le thé et je l'ai laissé demander à Gilles s'il pouvait acheter le terrain.
Gilles a refusé net.
Ensuite, il lui a demandé s'il était heureux en mariage. Gilles lui a répondu sèchement que oui, sur quoi John s'est exclamé en riant « Profitez-en tant que ça dure !»
J'avoue que j'ai eu des envies de meurtre.
C'est à ce moment-là que j'ai parlé à Gilles du cliché.
Vous êtes vraiment obligé de trouver le coupable? Vous êtes sûr que ce n'était pas Tom Courtney?
Absolument certaine. Voyez les choses sous un autre angle. Si le meurtrier n'est jamais découvert, vous continuerez à vous soupçonner les uns les autres, et ce village ne sera plus jamais le même. Enfin, ça restera toujours un trou paumé.
Oh, jadis, c'était un endroit charmant et paisible, et nous nous entendions bien. On s'ennuie un peu parfois, bien sûr. Pénélope retira le chapeau exécré et le déposa sur la tête d'un ange de pierre. « Et on peut toujours aller à Mercester pour se cultiver un peu. Vous avez vu le mariage de Figaro, mis en scène par la compagnie locale l'année dernière ?»
Agatha l'avait vu dans une tentative d'élargir son horizon culturel, mais la mise en scène lui avait tellement déplu qu'elle avait mis ça sur le compte de son manque d'oreille. Elle ne savait pas que la production avait réellement été épouvantable, principalement parce que le rôle de chérubin avait été attribué à la femme du rédacteur en chef du journal local, ce qui avait assuré au spectacle une pluie de critiques élogieuses, malgré sa voix stridente à arracher le plomb du toit d'une église.
« Oui, » marmonna Agatha. « Si inspirant. Vous m'ôtez les mots de la bouche. Revenons à nos moutons, repensez au soir du meurtre. » « Vous êtes absolument sûr que personne n'a quitté la pièce à part Myriam et Miss Sims ?»«
Personne dont je me souvienne. Mais il y avait tellement de fumée avec la cheminée. Et puis je me suis absentée pour aller chercher le brandy. »
Ni Tilly Glossop ni Carrie Brother n'étaient présentes.
« Pénélope !»
cria une voix depuis le presbytère.
« Mon mari, il faut que j'y aille. »
Pénélope partit en courant, abandonnant son chapeau à l'ange. À son grand étonnement, Patrick s'aperçut que Tilly Glossop lui faisait du plat. Lorsqu'elle lui apporta un mug de café, elle se leva contre lui, pressant son opulente poitrine contre son épaule. Cela devait bien faire 20 ans, depuis que son visage était sillonné de rides sinistres, qu'une femme n'avait pas essayé de le séduire. Mais il afficha un sourire de circonstance et s'efforça d'avoir l'air flatté.
« C'est tellement agréable d'avoir un homme à la maison !»
susurra Tilly en faisant cliqueter les nombreux bracelets et chaînes agrémentés de breloques qui ornaient ses épais poignets et son cou. Elle portait une longue robe flottante, faite d'une espèce de mousseline suffisamment transparente pour laisser paraître un impressionnant soutien-gorge et une culotte violette.
« Goûtez donc un de mes biscuits. »
« Nous nous intéressons toujours au meurtre de Sunday. » dit Patrick. « Vous étiez très proche de lui, vous l'avez peut-être entendu se plaindre que quelqu'un le menaçait. »
Il avait déjà vu des bouches en cul de poule, mais là, c'était le visage entier de Tilly qui semblait faire la moue.
« Personne ne l'appréciait vraiment, » répondit-elle, se laissant tomber à côté de Patrick sur le canapé dans un nuage de parfum.
« Des témoins vous ont entendu vous disputer. »«
Oh ça,
je lui annonçais que j'en avais fini avec lui. » expliqua Tilly. « Il a été amusant un moment, mais vous savez, avec moi, ça va, ça vient. »«
Comment fait-elle ?» se demanda Patrick. « Il faudrait qu'elle soit la dernière femme sur Terre pour que je puisse imaginer en penser pour elle. »«
Je pensais que c'était l'inverse, » risqua-t-il.
« Vous vous trompez. La plupart des villageois l'avaient dans le collimateur, mais l'atmosphère avait déjà changé avant son arrivée. »«
Comment ?» Pourquoi ?
Audley Cruises n'est pas un village à la Agatha Christie, avec un lord ou un colonel à la retraite, régnant sur une flopée de paysans qui attendent avec espoir une invitation à une fête sur ses terres. Nous sommes tous plutôt sur un pied d'égalité.
L'ancien propriétaire du manoir, le vieux George Briggs, restait sur son compte à soi. Puis Myriam est arrivée et a voulu jouer les châtelaines. Ça a bouleversé l'équilibre, vous voyez ce que je veux dire. Alors, tout le monde était déjà à cran quand Sunday est entré en scène. À cause de l'histoire de la rampe d'accès pour les handicapés, Myriam s'est retournée contre lui. Mais je crois qu'elle continuait d'encourager ses petites vendettas mesquines. Elle se disputait souvent avec Gilles, le pasteur. Elle disait que l'église était laide, que les cloches sonnaient trop fort, que l'encens sentait mauvais et que la seule raison pour laquelle il était devenu pasteur était qu'il aimait porter des robes. Pourtant, elle donnait de l'argent à la paroisse. Fichu caractère.
Patrick commençait à se demander s'il ne faisait pas fausse route.
« Et cette photographie de vous avec le maire, vous devez savoir qui l'a prise ?»
C'était Sunday. Trop de plaintes avaient été déposées contre lui. Le maire avait juré de faire quelque chose.
« Alors vous l'avez piégé ?»«
Pas moi. J'ai dit à Sunday que j'allais avoir une amourette avec le maire quand sa bourgeoise serait absente. C'est tout. Vous ne pouvez pas me le reprocher. »
Être si près d'elle et de son parfum écœurant commençait à rendre Patrick nauséeux.
« Il doit bien y avoir un meurtrier dans ce village, » insista-t-il.
« Pensez à l'agression de l'ami de Mrs. Raisin, Roy Silver. Il serait mort s'il n'avait pas la tête dure. »«
Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une tentative de meurtre, » tempéra Tilly. «
Plutôt de quelqu'un qui en aura eu marre que des étrangers fourrent leur nez dans les affaires du village. On ne pourrait pas parler d'autre chose. » Elle se pelotonna contre lui. Patrick se leva d'un bond. « Merci pour votre aide, il faut que j'y aille. » Il bougeait vite pour un homme aussi imposant, et avant même qu'elle ne réussisse à extraire ses formes voluptueuses des profondeurs du canapé, Tilly entendit la porte d'entrée claquer. Patrick, Tony et Agatha se retrouvèrent sur la place du village. Un seul d'entre eux avait découvert quelque chose, et c'était que Tilly avait parlé à Sunday de sa liaison supposée avec le maire. Tout à coup, une motte de terre toucha Agatha à la joue. Elle se retourna, furieuse. Jusqu'à présent, elle n'avait pas remarqué d'adolescents dans le village, mais maintenant, il y en avait tout un groupe qui s'emparait de pierres et de mottes de terre et les leur lançait violemment en criant « Cassez-vous, on veut pas de vous ici !» Ils se précipitèrent dans leur voiture et se retrouvèrent au bureau. « On les dénonce à la police ?» demanda Tony. « Non, je ne crois pas que nous devrions, » dit Agatha. En courant vers la voiture, j'ai aperçu Gilles, le pasteur qui regardait par la fenêtre du presbytère. Il n'a pas levé le petit doigt. Bon, on continue à travailler sur nos autres dossiers et on oublie Sunday quelque temps. Comment ça se passe, Simon ? Le jeune homme fit pivoter sa chaise. J'ai imprimé toutes mes notes, comme vous me l'avez demandé. J'y ai mis tous les détails, si infime soit-il. Génial ! Je les lirai plus tard. Nous ne sommes plus rémunérés pour découvrir qui a tué Sunday. Alors on se concentre sur les autres clients, ceux qui rapportent. Lorsque Agatha rentra chez elle ce soir-là, elle trouva Charles qui l'attendait. « J'ai une info pour toi. » annonça-t-il. « Sur Sunday ?»« Laisse tomber, Sunday. Je traversais Morton in March et devine qui j'ai vu se pavaner dans la rue. Dan Palmer. »« Qu'est-ce qu'il fiche dans le coin ?»« Espérons qu'il ne cherche pas à se venger. J'ai ouï dire par mes contacts qu'il avait perdu son boulot. Alors j'ai décidé de venir te tenir compagnie juste au cas où. Comment progresse le dossier Sunday ?» Agatha lui fit part des dernières avancées. « Je pense que c'est une affaire qui ne sera jamais résolue, » conclut-elle. Dan Palmer avait le gosier terriblement sec. Il s'était promis de s'octroyer un verre plus tard dans la journée, juste un. En quittant les bureaux du journal, il avait emporté les notes sur les affaires d'Agatha et déniché un dossier non résolu, le meurtre de John Sunday. C'est là qu'il avait eu une idée de génie. S'il pouvait conclure cette enquête, alors il s'installerait comme détective privé et ferait concurrence à Agatha Raisin. Il savait que s'il restait sobre, il la battrait à plate couture, parce qu'il était prêt à utiliser des méthodes peu reluisantes qu'elle n'envisageait probablement même pas. Il se dit que le meilleur moment pour se mettre au travail serait vers 10 heures du soir. Il avait un micro-parabole de forte puissance. Tout ce qu'il aurait à faire, ce serait d'attendre que tout soit calme et d'espionner les conversations dans les cottages. Un de ses anciens contacts de la police lui avait dit que les flics étaient sûrs que le meurtrier était du village. Il prit une chambre dans un motel à la périphérie de Mercer, près de la rocade. Il n'y avait pas de minibar. Il se rendit dans un restaurant situé en bord de route, engloutit le petit déjeuner servi à toute heure dans cet établissement et se sentit mieux, même s'il y avait toujours ce grand trou à l'intérieur de lui qui avait besoin d'être rempli d'alcool. Allez, un petit verre ne lui ferait pas de mal. Dans un pub de Mercer, il se limita à 2 doubles vodka. Avec un grand effort, il quitta son tabouret et regagna sa voiture, où il alluma le plafonnier, examina une carte routière et chercha la route qui conduisait à Audley Cruises. Tout était sombre et silencieux. Les petits cottages autour de la place centrale semblaient se tapir dans l'ombre. Il sortit du village et se gara sous un gros marronnier en haut d'une colline. Le ciel était couvert. Serrant contre lui son micro-parabole, qui lui avait coûté une petite fortune, mais avait été la source de nombreuses coupes, il redescendit à pied vers le cimetière, s'accroupit derrière une grande pierre tombale, mit en route son appareil et le pointa vers le presbytère. Une voix d'homme résonna haut et fort dans l'obscurité. Dan lâcha un juron et baissa le son. Le pasteur, sans doute.
« Je vais me coucher, tu viens ?»«
Dans une minute, chérie, » répondit une voix féminine. « Je finis juste la vaisselle. » Et ce fut tout. Génial. Vraiment génial, pensa-t-il.
Essayons ailleurs. Il portait des vêtements sombres et un bonnet noir ramené sur les yeux. Il faisait chaud et humide, et il commençait à transpirer. Il émergea prudemment de derrière sa pierre tombale et poussa un cri. Une haute silhouette coiffée d'un chapeau le fixait du regard. le temps qu'il se ressaisisse assez pour voir qu'il s'agissait d'un ange de pierre affublé d'un couvre-chef, la porte du presbytère s'ouvrit et la voix féminine se fit entendre tremblante.
« Il y a quelqu'un ?»
Il s'accroupit de nouveau, le cœur battant, jusqu'à ce que la femme referme la porte, puis s'éloigna à pas de loup. Plus loin, dans le village, des lumières brillaient dans un bâtiment élevé. Il s'en approcha. La petite route qui menait au bâtiment s'appelait Millhouse Lane. Dissimulé dans les buissons à côté de la mare, il alluma son micro.
« Si seulement ce jeune homme n'était pas parti !» dit une voix féminine. « Il était si gentil !» « Dommage que ce soit un fouineur. Le loyer changeait beaucoup de choses. C'est un peu différent de joindre les deux bouts ces jours-ci et... »
Dan reçut un coup violent sur la nuque. Il s'effondra. Le micro fut ramassé et jeté dans les remous de la retenue d'eau que le clair de lune faisait miroiter. Deux jours plus tard, alors qu'elle était sur le point de fermer l'agence pour la soirée, Agatha reçut la visite d'une certaine Mrs. Ruby Palmer. C'était une petite femme, à l'air anéanti et aux cheveux châtain clair permanentés en boucles serrées. Elle avait la vue basse et clignait continuellement des yeux. Elle portait un cardigan vert distendu sur un chemisier en coton orné de zigzags criards et une jupe longue en coton blanc.
« Je suis la femme de Dan », annonça-t-elle.
« Vous voulez dire Dan Palmer ?
Je suis désolée, Mrs. Palmer, mais si vous êtes venue me faire une scène parce que votre mari a perdu son emploi, laissez tomber. »
« Non, il ne s'agit pas de ça. » « Vous êtes vraiment détective privé ?»«
C'est ce qui est écrit sur la porte. »«
J'ai besoin de votre aide. » Dan a disparu.
« C'est un ivrogne, il est sans doute en train de cuver quelque part. »«
Non, pas cette fois. Il s'est mis en tête de vous damer le pion en tant que détective. Il voulait se rendre à Audley Crozies et découvrir le meurtrier. Vous savez, il avait un système d'écoute illégal. Le journal n'était pas au courant. » Le genre d'appareil qui permet d'entendre depuis l'extérieur ce que disent les gens lorsqu'ils sont chez eux. Je voudrais vous engager pour que vous le retrouviez. Non pas qu'il me manque, loin de là, parce qu'il a vraiment le vin mauvais. Mais récemment, il a hérité pas mal d'argent d'un oncle. Il me donnait seulement de quoi faire les courses. Si quelque chose lui est arrivé, je ne toucherai rien avant qu'on ait retrouvé son corps. J'ai déclaré sa disparition à la police de Hackney, à Londres, mais il n'était pas très intéressé.
« Très bien, » dit Agatha.
« Je ne vous ferai rien payer, sauf si je le trouve. Donnez-moi vos coordonnées. »
Ruby sortit une carte de visite de son sac à main miteux.
Vous logez à Merchester ?
Non, je rentre à Londres.
C'est une longue route ?
J'ai l'habitude. Dan était généralement trop ivre pour conduire.
Quel type de voiture a-t-il ?
Une vieille Volvo.
Tenez, écrivez-moi le numéro de la plaque d'immatriculation sur ce bout de papier.
Bien, je vous contacte dès que je découvre quelque chose.
Après le départ de sa nouvelle cliente, Agatha téléphona à tous les hôtels de la région et finit par tomber sur le motel où Dan Palmer avait séjourné. Le réceptionniste lui apprit qu'il n'était pas revenu et que s'il n'était pas de retour avant le lendemain, ils emballeraient ses affaires et les mettraient dans le débarras de l'hôtel. Agatha se présenta et le pria de laisser la chambre en l'état, car il pouvait s'agir d'une affaire concernant la police. Ensuite, elle téléphona à Simon et lui demanda s'il serait partant pour travailler tard.
« Je ne veux pas appeler la police à ce stade, parce que Palmer est un tel pochetron qu'il peut tout à fait avoir oublié dans quel hôtel il est descendu. Je voudrais que vous y alliez et que vous guettiez son retour. Attendez jusqu'à minuit, moi je vais rester ici et appeler les pubs. Vérifiez s'il y a un minibar dans sa chambre et confirmez-le-moi. S'il n'y en a pas, je suis sûr qu'il est allé étancher sa soif quelque part. »
Au bout d'une demi-heure, Simon téléphona à Agatha pour l'informer qu'il n'y avait pas de minibar. Agatha contacta consciencieusement tous les pubs de Merchester et des alentours, mais Dan Palmer pouvait passer inaperçu au milieu de n'importe quelle foule. Elle se mordilla le pouce de contrariété. S'il ne réapparaissait pas d'ici la fin de la journée, elle devrait informer la police de ce qu'il manigançait. Vers minuit, Simon lui signala que le journaliste n'avait donné aucun signe de vie. À contre-cœur, Agatha appela Bill Wong chez lui, mais sa mère l'informa qu'il travaillait de nuit. Elle ferma l'agence, se rendit au commissariat et demanda à voir l'inspecteur Wong, expliquant qu'elle avait des informations cruciales concernant une affaire de meurtre. Le jeune inspecteur vint la chercher et la conduisit dans une salle d'interrogatoire qui ressemblait plus à un salon d'hôtel avec des fauteuils confortables et des magazines.
« Vous avez décidé de vous montrer accueillant ?» ironisa Agatha en promenant le regard autour d'elle.
Il nous fallait un endroit confortable pour les victimes de viol, les enfants maltraités et ce genre de choses. Allez, dites-moi tout, que se passe-t-il ?
Agatha lui fit part de tout ce que Ruby lui avait raconté. Bill prit des notes.
« Vous avez l'air épuisé. Laissez-nous faire, » fit-il.
« D'accord, mais tenez-moi au courant, » répondit Agatha. « Après tout, vous n'auriez rien su si je ne vous en avais pas parlé. »
« C'est promis. »